Salut, nous sommes la classe des 4G du collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure, plus précisément la classe journalisme.
Ah ah, 4G comme journalisme.
Oui, peut-être. Nous nous retrouvons tout de suite pour les JO dans le cœur des 4e J. Nous sommes aussi accompagnés de nos professeurs, Madame Almeida, Madame Fonseca, Madame Després, Madame Lebert et Madame Pinson.
Dans cette émission, vous aurez les jeunes et les JO en micro-trottoir avec Chloé, Laetitia et Léa. Après, nous retrouvons Adriane et Kenny pour les nouveaux sports. Ensuite, Nouméa, Madison et Lizzie pour la flamme.
Puis le portrait d'un sportif accompagné de Clara et Mélina. Ensuite, nous avons l'handisport avec Chanel, Inès et Chloé. Puis nous avons les liens avec les clubs locaux de Adam, Louis et Jérémy.
Après, il y a la terre de jeu avec Inès et Lilou. S'en suivra la rencontre avec un journaliste, sportif et un bénévole avec Dawson, Maxime et Sébastien. Mais tout de suite, nous commençons avec Thaïs, Noah et Brian pour l'histoire des JO.
À tous. Bonjour Noah, bonjour Brian.
Bonjour.
Salut.
Noah, sais-tu qui a créé les JO ?
Bien sûr, c'est Pierre-Luc Pardin qui a créé les JO.
Non, ce n'est pas ça. Repartons en Grèce antique. C'est là que tout a commencé en 776 avant Jésus-Christ. Ils s'appelaient alors les Jeux Olympiques antiques. Ils ont été créés pour honorer leur dieu Zeus. Brian, sais-tu quand s'est arrêté les JO ?
Oui, en 393 après Jésus-Christ.
Oui, c'est ça. Les Jeux Olympiques ont été remis au jour par Pierre de Coubertin en 1896.
Noah, sais-tu où se passent les JO 2024 ?
Oui, ils se passent en France, plus précisément à Paris.
Oui, et c'est même la troisième fois que les JO se passent en France.
Mais qui le décide où se passent les JO ?
C'est le Comité International Olympique, soit le CIO, qui décide là où se passent les JO.
Les personnes qui font partie du CIO sont des anciens athlètes, des sportifs actuels ou encore des dirigeants des fédérations qui décident parmi les villes candidates en votant.
Pour accueillir les JO, il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages sont qu'il y a beaucoup de touristes, donc de l'argent pour les commerces et beaucoup d'appartements vendus ou loués pour que les touristes puissent se loger. Mais il y a aussi des inconvénients.
Le plus gros inconvénient est la pollution.
Tout ça, il faut dire que les JO sont une très longue histoire.
Merci, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous allons passer à Léa, Chloé, Laetitia et c'est ciao.
Merci à Thaïs, Noah et Brian.
Nous avons fait des micro-trottoirs dans le collège pour avoir l'avis de plusieurs personnes sur leurs connaissances sur les Jeux Olympiques autour des bureaux administratifs et des élèves au collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure.
Bonne écoute.
Quel sport pratiquez-vous ?
Alors moi, je pratique depuis 2 ans un sport qui s'appelle le taïso.
Alors du foot.
Qui est du handball.
Je pratique du foot.
Aucun.
Du volleyball.
Moi je pratique le football.
La marche et on va dire du vélo.
Football.
Moi je pratique du badminton.
L'escalade et le tennis.
De la course à pied. Mais le VTT, un petit peu de ski quand la période arrive.
C'est plus de les claquettes.
Pourquoi les JO en France sont une bonne idée?
L'esprit des JO, moi je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve que l'idée derrière de rassembler toutes les nations autour du sport, c'est plutôt positif. Après, il y a d'autres problèmes plutôt économiques qui vont se poser, des problèmes pratiques. Donc j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée.
Ah, parce que ça peut être une belle vitrine pour notre pays.
Et 100 ans après, c'est historique aussi.
Et pour promouvoir le sport français auprès de la scène internationale.
Pour s'entraîner.
Ça popularise la France, on va dire.
Parce que ça n'a pas encore lieu.
Pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Beaucoup d'argent dépensé.
Parce que moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait au moins un vainqueur dans chaque sport.
Pour que les Français essayent de pratiquer le sport.
Pour développer l'esprit d'équipe et montrer qu'on peut se dépasser. C'est une manière de réunir des nations,
de peut-être de valoriser et favoriser le sport.
Non, parce que ça donne une bonne image du pays.
Pour célébrer les sports et les sportifs surtout.
Citez trois sports que vous aimez regarder aux JO.
La gymnastique aux JO de Pékin et aux JO de Londres, parce que j'avais un ancien élève qui a participé aux JO en gymnastique dans la catégorie des anneaux. Et sinon, je vais regarder le judo, voilà, parce qu'on est une famille qui aime le judo.
L'escrime, le judo et l'athlétisme.
Le hand, l'escrime aussi. Et pourquoi pas le break dance.
Regarder le foot aux JO, parce que devrait y avoir des athlètes que je connais. Ensuite, je vais regarder le basket. Et puis pour terminer, de la gym.
La gym, la boxe et le basket.
Du volley, du basket et du foot.
Du football, l'escrime et l'escalade.
Le foot, le rugby et le tennis.
L'athlétisme, principalement.
Le tennis, le basketball, lancer de javelot.
Foot, boxe, escalade.
Le judo, la gym et l'équitation.
Le volleyball, lancer de javelot, le saut de haie.
Le VTT, la natation, l'athlétisme aussi et bien d'autres.
La gymnastique, le plongeon, l'athlétisme.
Moi j'aime bien la natation, parce qu'il y a des beaux garçons.
Bien l'équitation aussi.
Bah les sports de plage parce que c'est pas très connu en fait, genre le volley, les beach volley, des choses comme
ça. J'aimerais regarder l'escalade.
La course.
Pour vous, que représentent les cinq anneaux des JO ?
L'amitié entre les peuples, j'espère. Je crois que c'est ça l'idée des anneaux entrelacés.
C'est les cinq continents et c'est le fait d'être soudés ensemble.
Je ne sais absolument pas à quoi représentent les cinq anneaux des JO.
Les cinq continents.
Ça représente des couleurs qui doivent sûrement avoir chacune une signification. Je ne sais pas lesquelles.
Les cinq continents.
C'est les cinq continents.
L'entraide, différents pays qui vont collaborer et puis s'affronter.
Citez-nous trois mots qui représentent les JO.
Le dépassement de soi.
Partage, fair play et victoire quand même.
Performance, exploit. Et médailles.
Il y aurait le sport, la fraternité, la compétition.
Sport, plaisir, compétence.
Sportif, international.
Sport, enthousiasme.
Le sport, la combativité et le collectif.
L'amitié, la sportivité.
Je sais pas, la jeunesse, on va dire.
La flamme olympique.
L'esprit compétitif.
Le sport.
Plaisir. Sportivité, compétence.
La réussite, la défaite et apprendre de nouvelles choses.
Dépassement, beauté, espoir.
De performance, de dépassement de soi, d'amitié.
L'effort, l'abnégation,
récompense.
Fair play, combativité et honneur.
Citer un champion des JO.
Ah, Usain Bolt.
Michael Phelps.
Tony Yoka, à la boxe il y a quelques années.
Le Brésil, en 2012, je crois.
Norman Odou.
Teddy Riner.
Julien Absalon, qui a été, je crois, deux fois champion olympique.
Michael Phelps, Usain Bolt.
Alors, Luc Alphand. Philippe Candeloro.
J'espère que cela vous a intéressé et vous a apporté des connaissances sur les Jeux Olympiques et vous aura donner des envies de les regarder.
Nous retrouvons maintenant Kenny et Adriane.
Merci Chloé, Léa et Laetitia. Aujourd'hui, nous allons accueillir Messaoud Boumédoua, professeur de breaking, mais en fait, vous êtes un pro de la danse. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous fait que votre sport a été ajouté aux Jeux Olympiques?
Bonjour déjà. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis un professionnel, oui. ce que ça me fait... Personnellement, moi, ça change pas grand-chose puisque moi, je suis âgé et les Jeux Olympiques vont pas me toucher aujourd'hui. Je vais pas pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce que ça me fait pour les jeunes et pour la nouvelle génération? C'est un vrai but pour eux, un vrai changement, une vraie visibilité.
Monsieur, est-ce un sport compliqué à apprendre?
Ça dépend de la personne qui veut le pratiquer. Moi, je pars toujours du principe que tout le monde peut le faire. et ça dépend de la motivation de chacun. C'est même pas une question de taille, de poids, de d'âge, etc. C'est vraiment la motivation, moi, qui fait les choses.
Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, existe-t-il des écoles de breaking ?
Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas te dire combien, mais en France, il en existe énormément.
Vous pouvez en citer quelques-unes ?
Alors, des grandes écoles. Il y a la de breaking. Alors, il y a Toulouse, faut que je retrouve le nom. Breaking School, tout simplement. À Paris, il y a énormément de choses aussi, mais j'ai pas les noms en tête. Et puis sinon, dans l'heure, il y a Breaker. Hein.
Pour vous, le breaking, c'est quoi ?
Pour moi ? Bah, c'est une grande partie de ma vie. Moi, j'ai commencé à l'âge de 17-18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. Je continue à danser. Et voilà, c'est pour moi c'est un peu tout quoi, parce que c'est mon travail, c'est ma passion, c'est mon échappatoire, mon défouloir, c'est un peu tout ça.
Existe-t-il des compétitions de breaking internationales ?
Alors là, c'est pareil, c'est comme les écoles, il y en a énormément, on pourrait même pas les citer. Il y en a des fois 5 en France le même week-end. Et dans le monde entier, il doit y en avoir des vingtaines en même temps. Donc après, pour le breaking Jeux Olympiques, là, il y a des compétitions spécifiques pour ça.
Ah oui, ok. Quel était ton rêve quand tu étais enfant ?
Ah, bah pas de devenir breaker déjà.
Je m'en doutais.
Mon rêve, c'était d'être un adulte. En plus, je crois que c'est vrai. J'avais pas d'envie spéciale au niveau du travail, mais c'était de grandir vite.
Bah moi,
alors qu'aujourd'hui, j'aimerais de revenir en arrière. Et toi, c'était de jouer ?
Oui, tout simplement.
Ok, c'est cool.
Quelles sont les différentes formes de breaking ?
Alors, c'est quoi que tu appelles forme de breaking ? Est-ce qu'il y a plusieurs choses dans le breaking ?
Oui,
ouais.
Voilà.
Alors, il y a plein de formes, ouais, comme tu viens de dire. Il y a des styles différents. Il y a le footwork, c'est des mouvements très au sol, avec les mains et les pieds au sol, et on tourne beaucoup. Il y a les top rock, ça c'est les préparations pour aller au sol, c'est la danse debout. Il y a les power move, là c'est des mouvements très en rotation, comme on le voit souvent, les gens qui tournent sur la tête, qui ont que les mains ou la tête qui sont posées au sol et jamais les pieds. Après t'as la technique le tricks, donc c'est les montées et les descentes sur les mains, coudes, tête, etc., sans que les pieds touchent au sol. Donc après, quand on mélange tout ça donne un passage.
D'accord. As-tu déjà été blessé au breaking?
Oui.
Ah oui.
Pas beaucoup comparé à d'autres, mais j'ai fait par exemple une rupture du tendon d'Achille.
Ah oui.
Mais bon, c'est comme dans tous les autres sports. Il y a un moment où la fatigue, trop d'entraînement, trop de la malnutrition des fois aussi pour certains qui font que le corps lâche.
D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler du surf.
Alors...
Et oui, le surf est aussi aux JO avec le skate et le snowboard. Les JO nous préparent de grandes surprises. Alors ne manquez pas ça. Maintenant, je laisse la parole à Lizzie, Nouméa et Madison pour la flamme olympique. Merci encore à Messaoud. Ciao.
Merci à vous.
Merci Kenny et Adrienne. Tout à fait, nous allons parler de la flamme. La première fois que la flamme olympique est apparue, c'était le 28 juillet 1928. Elle représente l'union entre tous les peuples et elle essaye de transmettre un message de paix et d'amitié.
Cette année, Yves va participer au relais de la flamme olympique. Il y aura une dizaine de participants pour porter la flamme, dont Mathieu qu'on a pu interviewer.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie ?
Voilà. Moi, je m'appelle Mathieu.
D'accord.
Le nom complet, c'est Jeremias Mateus Eginamo. Et je suis professeur de judo à la LM Evray, en même temps à Netraville. Et je travaille aussi à HDI comme mécanique, mais je fais les mécaniques HDI.
Quand est-ce que vous allez porter la flamme ? Combien de temps ? De où à où ? Et est-ce que vous êtes. On vous a préparé à ça ?
Non, ils n'ont pas encore donné le temps. Mais normalement, c'est 400 mètres chaque personne. Je pense qu'on va commencer à côté de. Pour moi, je vais passer à côté de Sainte-Ville, à côté des jardins botaniques. Et les autres, je ne sais pas.
Pourquoi vous avez porté la flamme ? Comment vous avez fait ? Et est-ce que vous étiez sélectionné avant ?
Non, je n'étais pas sélectionné. Normalement, c'est les deux jeux qui m'ont proposé. Ils m'ont proposé, dit non, on cherche quelqu'un pour porter la flamme. Mais ils ont choisi. Mais avant, moi, je voulais pas. J'ai dit, bah non, je vais pas porter. Et là, c'est une responsabilité énorme. Après, j'acceptais. Je voulais pas, mais après, j'acceptais quand même.
Hein, pourquoi?
Ah oui, normalement, juste que pour remercier, la France, tu vois. Parce que comme je suis sportif, les moments qu'ils ont me proposé, j'acceptais comme sportif.
D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de porter la flamme?
C'est normal qui me fait pour porter la flamme. Normalement, c'est une valeur d'amitié pour tous les continents. Je cherche à représenter comme sportif l'importance de la flamme.
Hein. Et bah, du coup, c'est fini. Merci beaucoup et au revoir et passez une bonne journée.
Au revoir, à vous aussi.
Au revoir.
La flamme vient des rayons du soleil devant les vestiges du temple d'Héra à Olympie.
La flamme part d'Olympie du temple d'Héra, exactement, et elle passera de Grèce jusqu'en France par bateau. Elle passera dans plus de 400 villes dans la France. La flamme partira le 8 mai pendant 3 mois. Elle passera de ville en ville et le 26 juillet, elle aura fini de faire le tour des villes.
Elle passera par Paris le 14 juillet et 15 juillet. Le dernier porteur de la flamme est Marie-Josée Pérec. Elle est championne olympique d'Atlanta. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons passer à Mélina et Clara.
Merci Noumé, Alizy et Madison. Nous allons vous faire écouter l'interview qu'on a eue avec Dany Rodriguez.
Bonjour, nous sommes avec Dany Rodriguez, gymnaste professionnel spécialisé dans les anneaux. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, donc je m'appelle Dany Rodriguez. Je suis un ancien gymnaste de haut niveau. J'ai été en équipe de France 12 ans, donc de 2005 à 2017. J'ai pu participer à plusieurs championnats d'Europe, championnats du monde et deux Jeux Olympiques, donc Pékin en 2008 où j'ai fini cinquième aux anneaux et Rio en 2016 où j'ai terminé septième aux anneaux.
À quel âge avez-vous commencé à pratiquer ce sport?
Donc j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 5 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport?
Donc ce sport c'est plutôt une histoire de famille en fait. Où mon grand-père faisait de la gymnastique, mes parents faisaient de la gymnastique et tous mes frères et sœurs aussi. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai vite accroché et j'ai vite progressé et fait plusieurs podiums déjà très jeune. Donc j'ai vite accroché grâce à ça et ça m'a donné envie de continuer et d'aller voir un peu plus haut.
Quel était votre ressenti lorsque vous avez appris que vous alliez y participer aux Jeux Olympiques?
Bah, sur mes premiers Jeux Olympiques, c'était vraiment, c'était pas une surprise, hein, mais c'était vraiment un aboutissement, hein, surtout parce que donc ça faisait déjà quelques années quand même que je faisais de la gymnastique et que j'étais en équipe de France. Et je savais que donc l'objectif, donc c'était de se qualifier aux Jeux de Pékin. Et fallait que je fasse une médaille européenne, donc pour que je puisse valider mon ticket pour participer aux Jeux Olympiques. Donc déjà, donc j'ai réussi à faire une médaille européenne, donc troisième place au championnat d'Europe, donc en 2008. Donc déjà très très heureux parce que c'était ma première médaille européenne, et puis en plus je validais mon ticket pour les Jeux, et puis ben donc c'était comme je disais un aboutissement et puis des années de travail et voilà.
Que pouvez-vous dire sur votre expérience?
Bah moi la gymnastique m'a appris beaucoup de choses hein, forcément, donc ça m'a permis d'avoir un métier derrière par la suite, donc je suis aujourd'hui entraîneur de gymnastique et c'est une sorte d'éducation. Moi j'ai quitté ma famille très très jeune, hein, donc en sixième, où je rentrais chez moi que les week-ends. Donc je voyais que ma famille tous les week-ends. Donc j'étais obligé d'être autonome rapidement et avoir une maturité assez rapide aussi. Donc ça m'a forgé un fort caractère. Et qui m'a permis de concrétiser toute cette carrière-là de haut niveau.
Qu'est-ce qui a été compliqué dans les préparations?
Comme chaque préparation, hein, ce qui est dur, c'est d'avoir le moral tous les jours, le moral à 100%, donc d'avoir une motivation régulière, Il y a des jours où c'est très difficile, le corps ne suit pas, on est fatigué, on a des douleurs un petit peu partout, mais comme on a toujours un objectif en tête, on sait qu'on s'entraîne pour ça, donc même dans la difficulté, il faut se battre parce que c'est des entraînements qui sont très importants et si on baisse les bras, on sait qu'on n'arrivera pas justement à atteindre notre objectif. Donc c'est travailler dans la difficulté, la douleur, c'est ce qui est difficile de faire ça au quotidien parce qu'on s'entraîne quand même 30 heures par je m'entraînais 30 heures par semaine. Donc forcément le corps à un moment il commence aussi un peu à fatiguer mais c'est pour atteindre nos rêves. Donc forcément le mental prend le dessus.
Quelle était votre alimentation pendant les Jeux Olympiques ?
Donc mon alimentation elle était comme au quotidien, hein. Il faut pas changer son alimentation parce que on est aux Jeux Olympiques, hein. Après moi donc j'étais spécialiste aux anneaux. Donc forcément, c'est un agrès où dès qu'on prend 1 ou 2 kilos, on le ressent rapidement. C'est un agrès où on doit se porter, un agrès de force. Et plus on se sent léger, plus c'est facile. Donc forcément, moi tout au long de ma carrière, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, c'est-à-dire, c'est pas dire pas manger, hein, c'est manger très équilibré. Faire attention à bien déjeuner le matin, à varier les repas, que ça soit viande, poisson et légumes et puis féculents tous les jours avec des petites portions pour éviter justement de prendre des kilos. Donc ça m'est arrivé de prendre quelques kilos, hein. Moi mon poids de forme était de 58 kilos, donc je suis assez léger. Donc ça m'est arrivé de monter de 1 ou 2 kilos sur des périodes non compétitives, mais j'essayais de rester dans ces eaux-là pour justement me sentir au meilleur de ma forme. Donc que ça soit sur les entraînements, en compétition, donc même sur un championnat de France, un championnat d'Europe ou championnat du monde, c'était toujours aussi cet objectif-là de rester au poids de forme et aux Jeux Olympiques forcément encore plus parce que c'est là qu'il fallait être encore plus performant. Donc on essayait de réguler tout ça.
Quel est votre plus beau souvenir des Jeux Olympiques ?
Le plus beau souvenir des Jeux Olympiques, ça serait vraiment la journée des qualifications. Donc déjà c'est une compétition qui est quand même hors norme, hein, parce que au point de vue médiatique et des infrastructures sont quand même énormes, surtout les premiers Jeux en Chine. C'était magnifique. On rencontre énormément de sportifs qu'on n'a pas l'habitude justement de rencontrer sur d'autres championnats et voilà. Donc je savais que donc moi quand je suis parti au jeu de Pékin j'étais normalement potentiellement médaillable, donc c'est à dire que j'avais le contenu et le niveau pour aller chercher une médaille. Donc ça passe toujours par des qualifications, donc le principal, donc le premier jour des qualifications, c'était l'enjeu le plus important parce qu'il fallait pas se louper pour pouvoir justement prétendre à une médaille. Donc cette qualification là que j'ai pu atteindre, c'était vraiment un très beau souvenir. Et après forcément un beau souvenir aussi d'avoir fait cette finale, parce que cette finale était médiatisé, donc ma famille a pu me suivre de très loin. Ils étaient en France, hein, forcément, donc ils m'ont suivi à la télé, donc j'étais content de représenter notre pays. Mais malheureusement, j'ai pas eu cette médaille qui était mon objectif premier, avec une petite erreur justement à la réception de mon mouvement ou qui m'a pas permis d'accrocher cette médaille. C'est pour ça que ça m'a aussi motivé par la suite à continuer pour essayer justement de gagner plusieurs titres par la suite.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre expérience ?
Ce qui m'a marqué, tout nous marque en fait, que ça soit des échecs ou justement de la réussite. Dans tous les cas, à chaque fois, ça nous permet de nous faire grandir et de d'apprendre justement de nos échecs et nous permet d'avancer et de construire en gros notre carrière, donc que ça soit au niveau sportif ou professionnel. Donc moi, ce qui m'a marqué réellement, c'est on se rend pas compte sur le moment, mais la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est quand même grandiose, hein, parce que j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, donc on partait souvent en déplacement, hein, minimum une fois par mois, donc que ça soit pour des championnats ou des stages en collectif France, on partait souvent en déplacement, donc que ça soit en France ou à l'étranger. Et ça nous a permis de faire le tour du monde, comme j'ai dit, de visiter énormément de villes que je pense que j'aurais mis du temps à faire ça en tant que humain, en tant que personne normale, quoi.
Qu'est-ce que ça fait de gagner ou perdre des épreuves?
Bah forcément, on est toujours déçu, je vais parler plutôt de perdre, donc on est toujours déçu de perdre, mais comme je l'ai dit sur la réponse d'avant, c'est que c'est comme ça que ça nous permet de nous construire et d'apprendre de nos échecs, donc on est déçu, mais ça nous motive énormément à rebondir rapidement et puis forcément ça. On peut pas rester tout le temps sur des échecs. Il y a toujours ce résultat qu'on attend depuis des années qui arrive et c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi. Donc voilà, ça permet de s'entraîner dur énormément pour pouvoir atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés avec l'entraîneur et les équipes de France. Donc voilà, on apprend tous les jours, que ça soit de la réussite ou des échecs.
Votre vie a-t-elle changé après les Jeux Olympiques? Si oui, comment?
Alors, elle a changé forcément, un regard différent par rapport aux gens qu'on côtoie régulièrement. On apprend, on a beaucoup plus de connaissances aussi derrière. Après, ça change pas non plus énormément, hein. On rentre à la maison, le quotidien revient, on repart s'entraîner pour un nouvel objectif, que ça soit un championnat de France, ou un championnat d'Europe, ou un championnat du monde. Donc, ça change pas une vie. Ça reste un événement qu'on n'est pas prêt d'oublier. Mais on reste tel qu'on est et on reste focus sur d'autres objectifs derrière.
Merci d'avoir répondu.
Bah nickel. Bah merci à vous et puis j'espère que le reportage sera bon.
Merci à Daniel Rodriguez d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants pour la rencontre d'un deuxième sportif. Tout de suite, musique.
To be a hater, something's so sweet about thinking that I'm better. Just to wake up every morning, lay in bed, and somehow never ever rise to the occasion, or even hold up under pressure. But we all know that it doesn't even matter if I waste away and no one thinks I'm clever. Just as long as I've got my I'm
écouter Infinity Song de Haters Anthem et vous êtes toujours avec la classe des 4G du collège des 7 épis. Maintenant, je vais vous parler des Jeux paralympiques qui vont commencer le 28 août jusqu'au 8 septembre 2024.
Le handisport est la catégorie des JO où les sportifs sont atteints de handicap.
Les sports sont adaptés à leur handicap avec différents aménagements.
Comme des fauteuils, des rampes d'accès dans les piscines.
Comme les sports, les équipes aussi sont adaptées aux handicaps des athlètes.
Les handicaps moteurs, sensoriels et psychiques.
On peut retrouver dans ces handicaps des amputations, des hémiplégies, la paraplégie, des personnes malvoyantes.
Leurs handicaps doivent être similaires pour équilibrer les groupes.
Les sports étant adaptés aux handicaps sont différents des JO.
Dans cela, on peut trouver le basket-fauteuil,
la bokia, l'escrime-fauteuil, le cécifoot,
le goalball, le para-athlétisme, le para-cyclisme,
le para-powerlifting, musculation développée couchée, le para-natation, le para-tennis de table et le rugby-fauteuil.
Suivez les Jeux paralympiques, vous verrez des performances incroyables.
Ils commenceront le 28 août jusqu'au 8 septembre. Merci, on laisse place à Louis, Jérémy, Adam.
Merci Chanel, Inès et Chloé pour nous avoir donné la parole. Bonjour, nous sommes en direct avec Jean-Christophe Boulanger, membre du comité directeur de l'EAC.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Ouais, très bien, et vous ?
Très bien.
Alors ?
On a quelques questions à vous poser.
Ouais, avec plaisir.
Comment avez-vous été membre du comité du club de l'EAC ?
Eh bien, je suis devenu membre du comité directeur de l'EAC Athlétisme il y a plusieurs années de cela. Voilà, j'étais athlète, puis il y avait des gens qui étaient engagés, des bénévoles et autres. Et puis un jour, eh bien, il fallait venir filer un petit coup de main. Donc voilà, ça s'est fait naturellement avec l'envie de s'impliquer pour le club.
Ok. Qu'avez-vous fait dans votre parcours sportif ?
Alors mon parcours sportif, j'ai un parcours de très modeste, quoi. Voilà, je suis toujours été sportif et puis je suis arrivé à l'athlétisme il y a à peu près 25-26 ans et j'ai fait différentes courses. J'ai commencé sur 800 mètres jusqu'au marathon avec comme on dit le sport pour tous, l'excellence pour chacun. Donc voilà, moi j'ai essayé de prendre du plaisir et puis de me donner des challenges adaptés à mon potentiel.
D'accord.
Y a-t-il des gens du club de l'EAC qui vont participer aux JO ?
Ah, bonne question. Parce que en fait, à l'EAC Athlétisme, on a déjà eu 3 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques il y a des décennies. Et là, notamment cette année, avec les Jeux Olympiques de Paris en 2024, hein, on a un athlète qui s'appelle Juste Kaoumaté, qui est natif qui était sur Évreux et notamment sur Métroville, qui est arrivé au club assez tardivement, en fait, vers 13-14 ans, et qui a été pris en charge par Mathieu Gomis, un de nos entraîneurs. Et il se trouve qu'il s'est révélé sur le 110 mètres sur les haies. Les 60 mètres haies en salle et l'hiver, et 110 mètres haies l'été. Et là, il a déjà réalisé les minima pour les Jeux Olympiques. Maintenant, il y aura très peu de place, parce que s'il y a plusieurs athlètes qui réalisent les minima, il y aura 2 voire 3 places. Donc, mais là, pour vous dire que juste, il y a les championnats du monde indoor à Glasgow ce week-end, et juste va y participer avec de réelles chances de médaille. Il est le 3e meilleur performeur mondial.
D'accord. Avez-vous déjà été au JO en tant que spectateur ?
Alors non, je n'ai jamais été au JO en tant que spectateur du tout. Ce sera les premiers Jeux auxquels je participerai à distance.
Ok. Y a-t-il des membres du club qui ont déjà remporté une épreuve au JO ?
Non, malheureusement non. Déjà d'y avoir participé, c'est un grade, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, sans vouloir être il a tiré de mauvaise onde, mais jusqu'à vous mater, participation au jeu, elle est très très probable. Et après, sur les haies, tout va très très vite. C'est-à-dire qu'une moindre faute technique, même avec les meilleurs mondiaux, ça arrive, fait que il est en finale potentielle plus, et après pouvoir peut-être envisager un podium, mais ça sera, l'avenir le dira.
Ok. Quels sont les athlètes qui ont été pris pour les JO au club de l'EAC?
Alors, les athlètes, il y avait Jacques Aletti sur la hauteur, il y a eu notre ami marcheur Alain Lemercier qui a réalisé deux Jeux Olympiques. Il y a eu Amadou Mbaye qui est un coureur lui de 400 haies et qui a fait les Jeux Olympiques également à deux reprises. Et là, cette année, très probablement, jusqu'à Oumaté.
Ok. Va-t-il se passer quelque chose vis-à-vis du club car les JO se passent en France?
Oui, il va se passer quelque chose parce qu'il va y avoir notamment à Val-de-Reuil, il va y avoir le passage de la Flamme qui va passer sur plusieurs endroits du département de l'Eure. Et il va y avoir une manifestation particulière portée par la Fédération française d'athlétisme à Val-de-Reuil parce qu'il y a la salle Jesse Owens. Enfin, c'est un très bel équipement en matière d'athlétisme. Et donc là, le club y participera avec plein d'autres clubs du département de l'Eure.
Il y aura le passage de la Flamme avec plusieurs athlètes, notamment des athlètes qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme et ceux qui vont la marquer et qui sont en train de la marquer. Et ensuite, on reviendra, donc ça c'est le 6 juillet, et on reviendra en début d'après-midi à Évreux parce que certaines personnes vont participer au relais de la Flamme et les clubs vont être associés, tous les clubs de sport d'Évreux et notamment le l'EAC Athlétisme vont être associés pour défiler et puis porter des animations durant toute cette journée qui sera festive.
J'ai l'impression que vous aimez beaucoup jusqu'à Oumaté. Donc vous pensez quoi de jusqu'à Oumaté?
Bah je pense j'aime beaucoup jusqu'à Oumaté, mais au-delà de sa stature, de son statut d'athlète, qu'il soit de haut niveau ou pas de haut niveau, très sincèrement, ce qui m'importe, c'est l'homme, quoi. L'homme, la personne qu'il est. Voilà, qui a pas. C'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie qui n'a pas été simple. On lui a rien donné, d'accord. Il a à force de travail, d'engagement, de plaisir, il en arrive là où il est aujourd'hui. Et surtout, il a conservé une proximité avec notre club en particulier, bien sûr. Et notamment avec les jeunes, même avec les enfants. C'est-à-dire que il a un agenda qui est compliqué dans le sens où il est très dense. Et dès qu'il le peut, il repasse au club comme si de rien n'était. Et il va passer du temps avec l'école d'athlée, avec les jeunes, les ados là qui commencent à performer. Mais quel que soit leur niveau de performance. Donc voilà, il y a de l'humilité et il y a une réelle simplicité. Voilà, il n'est pas pris dans un espèce de star system. Qui des fois peut être le cas lorsqu'on commence à devenir champion dans l'athlétisme.
Ok. Pensez-vous que jusqu'à Oumaté pourrait gagner une épreuve des JO dans l'avenir?
Alors, gagner une épreuve, déjà, il sera que sur une épreuve, hein, celle du 110 mètres haies, comme je vous le disais. Gagner... compliqué parce que c'est très très dense, mais comme je vous le disais, c'est aussi très très technique. C'est-à-dire que ça se joue au centième, au dixième. Alors dixième, ça vous paraît très peu, mais c'est beaucoup en athlète sur du à ce niveau-là, au niveau mondial. Mais ça peut aussi se jouer à des centièmes. Et sur des haies, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Parce que je vous dis, le meilleur du monde a une moindre faute technique, il peut perdre 2-3 dixièmes, et là, c'est fini. Donc, je lui souhaite, en tout cas, je lui souhaite de continuer comme il le fait depuis toujours, et puis après, il se passera ce qui devra se passer.
Ok. J'ai encore une petite question. Quel est le plus gros titre que Jusqu'à Oumaté a remporté?
Il a remporté, il a fait une troisième au championnat du monde, au championnat d'Europe l'année dernière. Voilà. En indoor. Et cette année, il avait l'année dernière au championnat du monde à l'extérieur,
Il avait manqué la finale à cause d'une faute, enfin trois fois rien, mais il était déjà dans le Gotha mondial de 5-6 meilleurs mondiaux. Donc c'est pour vous permettre de le situer. Et enfin, si je peux vous dire quelque chose et passer un message, il fait les championnats du monde à Glasgow le 2 et 3 mars, et le 6 mars, il revient à Évreux justement pour rencontrer des jeunes volontaires du SNU, des jeunes aussi du club et des moins jeunes, peu importe. Ça aura lieu au conseil départemental de l'Eure à partir de 17h. Et il y aura aussi une exposition qui sera faite autour de l'histoire de l'olympisme, pas uniquement sur le versant sport, mais aussi le versant historique. C'est-à-dire que dans l'olympisme, il y a multifacettes qui seront abordées. Il viendra pour débattre, échanger avec de jeunes gens, et dont vous, futurs journalistes, vous seriez les bienvenus si vous voulez y participer.
Ok, merci pour cette information. Encore une question. Est-ce que les jeux changent-ils de... Est-ce que les JO, ça change la vie d'un athlète?
Alors, ça change la vie. Quand un athlète fait une médaille aux Jeux Olympiques, voire une médaille d'or, selon les spécialités dans lesquelles il est, Kevin Mayer, qui est par exemple un décathlonien, est quelque chose qui a changé sa vie dans ce sens où aujourd'hui, il est sécurisé financièrement pour pouvoir s'entraîner et ne pas être préoccupé à savoir comment il va faire pour vivre. Mais il faut savoir que ça, c'est très minoritaire. D'accord? Et que la très, très grande majorité des athlètes qui font les Jeux Olympiques, et voire même qui font des médailles, ce sont des gens qui sont très souvent précaires. C'est-à-dire que, ils sont très engagés dans la discipline, mais leur avenir, personnel, professionnel, enfin, tout simplement pour pouvoir subvenir à leurs besoins, est un quotidien compliqué, d'accord. Certains sont accompagnés par des collectivités, la ville où ils habitent, ou bien par des entreprises. Ça existe, bien sûr, mais ça ne fait pas une reconversion professionnelle. Donc, c'est pour cela que quand on est athlète, il faut à la fois être sur son projet sportif, c'est comme un musicien, il est sur son projet, un artiste, quel qu'il soit, mais à côté de cela, il faut aussi réfléchir à sa reconversion professionnelle et à ce qu'on va pouvoir faire une fois que l'activité sportive sera terminée.
Ok. J'aurais bien aimé rester plus longtemps avec vous, mais c'est terminé. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec un membre du comité directeur de l'EAC qui s'appelle Monsieur Jean-Christophe Boulanger. Merci de nous avoir écoutés.
Merci de nous avoir écoutés. Nous passons la parole à Lilou et Inès.
Merci beaucoup et merci à Principe Actif. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Forward and Payaka. Manaka and then go Saka.
Enough mics. Exit your show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough mics. Exit your show like I exit your show like I exit the turnpike. Too many MCs, not enough mics.
club, Kemi.
Singing about love could not deal with it within the focus of I love you.
Nous revoici pour la deuxième rencontre d'un sportif. Maintenant, nous allons interviewer Alain Lemercier. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, je suis Alain Lemercier. Donc, j'ai participé aux deux Olympiades de Séoul en 88 et Barcelone en 92. Et actuellement, j'ai 67 ans. Donc, c'était il y a longtemps.
Justement, juste avant, nous avons eu une interview avec Jean-Christophe Boulanger de l'ESC.
Mmh. Oui.
Il nous a parlé de vous.
Oui, je connais Jean-Christophe, je connais bien, oui. Et puis
Est-ce que vous faites encore du sport?
Oui, bien sûr, oui. Je fais encore entre 300 et 400 km encore d'entraînement par semaine, par mois, je veux dire. En course à pied, puis en marche à pied. Toujours, oui.
Quel était votre ressenti lorsque vous avez appris que vous alliez participer aux Jeux Olympiques?
Ben, une grande fierté, parce que c'est la plus grande compétition au monde qui réunit tous les sportifs de plusieurs spécialités. Et on côtoie aussi bien les nageurs, des boxeurs, des équitation, tout sport confondu, que c'est super, quoi. Puis de vivre au village olympique où on côtoie tout le monde, tous les sportifs. C'est la plus grande compétition au monde.
Quel est votre plus beau souvenir des Jeux Olympiques?
Ben, ceux de Séoul, parce que j'ai participé à Séoul et Barcelone. Et Séoul, comme c'était loin, avec le décalage horaire, on arrivait 3 semaines avant. Donc on a pu côtoyer tous les sportifs pendant 3 semaines. Alors que quand c'est proche, comme Barcelone, on arrive quelques jours avant et on repart juste après. Alors c'est moins convivial. Et puis les Coréens, l'Asie, ils sont très très bons au niveau organisation, quoi. C'est très bien organisé.
Qu'est-ce que ça fait de gagner ou de perdre des épreuves?
Bah, tout dépend des tempéraments. Si c'est gagné pour une sélection comme pour les Olympiques ou les Championnats du monde, c'est une grande fierté, quoi. Et quand on perd, j'ai abandonné lors d'une Coupe du Monde, et alors que l'équipe de France était médaillée, là, ça m'a fait du mal parce que l'équipe était médaillée et moi j'ai abandonné sur blessure, quoi. Et donc tout dépend des conditions, mais quand on est sportif, il faut être bon perdant. Il faut savoir aussi perdre.
Votre vie a-t-elle changé après les Jeux Olympiques? Si oui, comment?
Non, je suis resté le même. Avant les Jeux Olympiques, j'étais postier, j'étais facteur. Et puis après les Jeux, j'ai retourné à mon travail. Non, ça n'a rien changé du tout. Non, c'est faut pas changer.
Entre les Jeux Olympiques auxquels vous avez participé et ceux d'aujourd'hui, quelles sont les principales différences dans votre discipline?
Eh bien, déjà, moi, je faisais le 50 km marche, et au Jeu de Paris, il n'y a plus de 50 km marche. Parce que c'est une distance qui demande 4 heures, et les médias, 4 heures, a-t-il visé 4 heures de compétition, ils ne supportaient pas trop. Donc, ils ont demandé à faire des moindres distances. Maintenant, il n'y a plus que 20 km. Il n'y a plus de 50 km. Et donc, c'est ça qui a changé. Autrement, non, c'est pas, il n'y a pas grand changement. Si c'était maintenant, je n'irais pas aux Jeux Olympiques, parce que ma licence n'existe plus.
J'avais fait combien de Jeux Olympiques en tout?
2, Séoul et Barcelone en 88 et 1992, et sur 50 km marche.
Avez-vous déjà été aux Jeux Olympiques, mais en tant que spectateur?
Non, jamais. Paris, peut-être, j'irai voir la marche et le marathon, mais jamais, non. Non, c'est très très cher, hein. C'est hors de prix, hein. Il faut avoir les moyens pour aller en spectateur aux Jeux Olympiques.
Est-ce que vous connaissez les jeunes du club de l'ESC?
Ah, bien sûr, j'ai été licencié à l'ESC, oui, bien sûr, tous, oui. Ah, oui. Ah, bien sûr, je les connais tous, oui.
Est-ce que vous êtes toujours bénévole au club?
Non, du tout, je suis plus licencié, non, du tout. Non, c'est terminé. Maintenant, je suis en retraite, donc je profite de ma retraite.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Nous retrouvons maintenant Dawson, Maxime et Sébastien.
Merci Clara et Mélina de nous laisser la parole. Nous allons parler des journalistes sportifs et un bénévole.
Nous allons maintenant écouter l'enregistrement de notre rencontre avec Pascal Kozlowski, qui sera bénévole au JO de Paris cet été.
Pourquoi avez-vous choisi d'être bénévole ?
Disons que j'ai choisi d'être bénévole parce que, pour la première raison, parce que déjà c'était les Jeux Olympiques et que je trouvais que c'était vraiment une occasion unique qui restait à faire dans sa vie pour participer à ces Jeux Olympiques. Et puis bénévole parce que voilà, j'avais pas de nécessité d'être rémunéré pour cette action.
Quelle est votre mission en tant que bénévole des JO?
Alors ma mission, ça va être conducteur, mais disons chauffeur des organisations, des différents teams qui composent les participants aux Jeux Olympiques. Voilà, donc en gros, ça sera amener les athlètes ou les représentants de l'organisation des Jeux Olympiques de leur endroit où ils se situent, c'est-à-dire que ça peut être du village olympique, éventuellement sur d'autres lieux comme par exemple les stades ou les stades d'entraînement.
Qu'est-ce que ça vous a peu apporté d'être bénévole au JO?
Est-ce que ça pourrait m'apporter la première chose qui est en gros, c'est le résultat de la motivation de ma candidature. C'est d'une part rencontrer des gens dans une sphère qui est complètement différente de la mienne. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis pas athlète de haut niveau, donc se retrouver confronté à des gens qui touchent haut niveau, qui sont athlètes ou même entraîneurs, physio, enfin qui peuvent être directement en tout cas dans cette mouvance, ça m'intéressait. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est une expérience pas que personnelle, c'est aussi quelque chose qu'on fait en groupe et voilà, rencontrer d'autres gens, d'autres univers. Voilà. C'est ça qui, je pense, en tout cas, va m'intéresser le plus dans cette mission. Voilà.
Combien de jours allez-vous rester bénévole?
Alors en fait, j'ai pas sous les yeux le temps, mais globalement, ça va être le temps des Jeux plus un petit peu avant, parce qu'on aura des sessions où on va se réunir, appréhender un petit peu ce qu'on aura à faire, c'est-à-dire les parcours qui seront proposés, les véhicules pour ce qui me concerne puisque je serai chauffeur. Et puis peut-être aussi une façon de représenter quelque part aussi la France dans cet environnement. Parce que quelque part, comme les JO, bon, c'est les JO, mais ça se passe en France, donc ça c'est important aussi de pouvoir au mieux représenter. Pour ça, je pense qu'on aura une petite formation pour nous aider à faire les bons choix, les bonnes attitudes au personnel qu'on aura à faire voyager dans les véhicules. Voilà.
Et du coup, quels sont les avantages en tant que bénévole des JO?
Alors, les avantages, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'avantages financiers. Faut savoir que moi j'habite en région parisienne, donc j'aurais finalement que les transports à payer, donc c'est pas énorme, mais il y a des tas de bénévoles qui viennent d'autres horizons, des fois même en dehors de France, puisque les candidatures elles étaient ouvertes à l'international. Donc il y a des gens qui vont devoir payer par exemple leur logement pendant toute la période de leur bénévolat. Donc en termes financiers, on peut dire que ça apporte rien. Par contre, c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça apporte déjà, en fait, une expérience dans la participation à ces Jeux Olympiques, une expérience en fait de relations humaines, et en fait, je pense que ce sera unique. Et pour moi, c'est essentiel.
Et quelle épreuve aimeriez-vous voir dans les JO?
Alors, non, les épreuves. Alors ça, ce sera, bah, ça sera en dehors de mon bénévolat, du coup. Bon, moi, j'aime beaucoup, en fait, les Olympiques, parce que ça permet de voir des tas de sports qu'on n'a pas l'occasion de, voilà, d'appréhender le reste de l'année, en général. Donc, bon. Il y a des sports un petit peu à la marge qui peuvent être intéressants. Des nouveaux sports, par exemple, aussi, qui sont au jeu. Alors ça, c'est des choses que, a priori, j'irai pas voir. Enfin, je ne sais pas, hein, il y aurait peut-être quelque part des possibilités en tant que bénévole d'aller voir quelques épreuves. Mais ça, c'est pas du tout garanti. Je pense que je serais, par contre, pour ça, peut-être un peu plus comme le Grand. Pas des mortels, mais enfin voilà, disons, je suis un peu comme tout le monde et je pense que je regarderai beaucoup d'épreuves à la télévision.
Bah, merci de nous avoir donné du temps.
Et, c'est bien, bah, c'était avec plaisir.
Au revoir.
Allez, au revoir et bonne fin de journée. Au revoir.
Nous laissons la parole à Inès et Lilou et nous reviendrons juste après.
Merci Maxime, Dossène et Sébastien, c'était super intéressant. Maintenant, nous allons vous parler du projet Terre de Jeux. Pour cela, on est avec Raphaël Dego, qui est assistant sur le projet Terre de Jeux.
Ben bonjour Inès, bonjour Lilou. Merci déjà d'être venu et de m'accueillir dans ce studio que je commence à connaître, JC. Je commence à connaître le studio, merci beaucoup.
Donc, bonjour. En quoi consiste le projet Terre de Jeux?
Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, le projet Terre de Jeux, c'est un label, tout d'abord. Le label Terre de Jeux, donc pour faire rapide, un label, c'est un projet commun qu'ont les collectivités, donc les villes, les villages, et qui peuvent s'inscrire pour être dans une mentalité commune et monter des projets ensemble. Donc, on va avoir des réunions, des temps d'échange ensemble pour progresser ensemble sur des projets liés aux Jeux Olympiques. Donc voilà, on a souvent des temps d'échange avec ces collectivités pour monter des projets Terre de Jeux. Donc il n'y a pas un projet Terre de Jeux, il y a des projets qui s'inscrivent dans le cadre du label Terre de Jeux.
D'accord, ça marche.
C'est un petit peu ça l'idée.
Et que fait l'équipe qui vous entoure?
Alors nous, je suis à la direction des sports du département, pour me présenter rapidement, du département de l'Eure. On a plusieurs équipes. Nous, notre rôle, ça va être à la fois de coordonner des projets Terre de Jeux donc qui peuvent exister, essayer de rassembler le maximum de personnes autour de ces projets, favoriser et pousser les collectivités à se labelliser, donc à rentrer dans ce groupe de parole qu'on va avoir avec tout le monde sur les projets Terre de Jeux. Donc voilà, on va essayer aussi d'apporter, ça peut être de l'apport à la fois financier sur certains projets, de l'apport matériel, donc on a des kakémonos, des flammes, donc c'est on va dire des éléments de décor pour les projets, pour que les collectivités puissent aussi animer de manière plus visuelle et de la plus belle des manières leur projet.
D'accord. Mais du coup, comment on obtient le label Terre de Jeux?
Alors, le label Terre de Jeux, moi, je suis arrivé un peu en cours de route, donc j'ai pas fait les demandes et autres, mais c'est un label qui s'obtient assez facilement, en fait. Il faut aller sur les sites et sur le site de Paris 2024, faire une demande de labellisation. La labellisation, elle coûte rien, donc c'est quelque chose de gratuit. Il y a quelques engagements que les labellisés, donc que les collectivités ou les personnes qui se labellisent doivent prendre, mais ça, il y a pas d'engagement financier. C'est quelque chose d'assez simple à faire pour se labelliser.
D'accord. Mais pourquoi est-il important que les gens d'autres pays viennent dans l'Eure pour se loger et s'entraîner?
Alors là, tu me poses du coup une question plus liée aux Jeux Olympiques directement. Donc il faut savoir qu'il y a des délégations qui arrivent pendant les Jeux Olympiques. Donc le site de référence, c'est à Paris, donc les Jeux vont se dérouler à Paris, mais toutes les équipes, toutes les délégations, tous les sportifs ne peuvent pas forcément soit se loger ou s'entraîner à Paris, parce qu'il n'y aurait pas assez de place forcément. Donc nous, on a la chance d'être pas très loin de Paris, on est à moins de 100 km et on va avoir certaines bases qui ont été sélectionnées pour pouvoir accueillir des délégations, donc des sportifs. C'est important pourquoi ? C'est important parce que déjà ça va mettre une présence et un enjeu de ou un esprit de Jeux Olympiques plus important. Donc ça va créer de la ferveur, de l'engouement, de l'animation. Et ça va surtout permettre aux sportifs d'avoir un cadre d'entraînement pas loin des Jeux Olympiques, pas loin des sites des épreuves. Et ils vont pouvoir s'acclimater parce qu'on va avoir vraiment pendant les Jeux Olympiques, il y a des sportifs qui viennent de la Terre entière. Donc eux, ils vont arriver en avance, ils vont pouvoir s'entraîner, s'acclimater donc au climat, aux conditions, à la population, à toutes ces choses-là. Et c'est important pour nous, en tout cas en tant que territoire, d'avoir des zones comme ça parce qu'on va pouvoir construire aussi avec ça, monter des projets autour de ces délégations qui arrivent et ça va créer de l'engouement et faire participer l'ensemble des Eurois du territoire dans ce beau projet.
Ok. Et du coup, c'est quand que les équipes arrivent?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'ai même pas la réponse, tu vois. C'est quand qu'elles arrivent, on sait pas exactement, en fait. Il faut savoir que pour participer aux Jeux Olympiques en tant que sportif, en fonction des épreuves, donc il y a des sélections qui sont tout autour du monde. Donc il y a ce qu'on appelle des minima, par exemple, en athlétisme, on doit réaliser tel temps donc pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Il y a certaines épreuves, dans certains sports, où ces sélections-là ne sont pas encore faites ou pas finies. Et donc, toutes les délégations, tous les sportifs ne savent pas encore s'ils vont pouvoir participer ou non aux Jeux Olympiques. Nous, on a un grand sportif, d'ailleurs, en France, Kevin Mayer, qui va réaliser normalement ses minima prochainement, mais qui ne les a pas encore réalisés. Donc, il n'est pas encore sûr de participer aux Jeux Olympiques. Et donc, c'est pareil pour beaucoup d'athlètes. Et donc, les délégations qu'on va pouvoir potentiellement accueillir sur le territoire, on ne sait pas encore combien elles seront, à quelle date elles vont arriver. Ça va se décider un petit peu plus tard, mais on espère qu'elles arriveront très vite pour qu'on puisse en profiter et leur permettre de s'acclimater le plus rapidement possible.
D'accord.
La flamme olympique passe dans l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors je vais choper mes petits papiers parce que sinon j'ai pas toutes les villes et je m'embrouille tout le temps avec le nombre de villes. Il y a dans le territoire roi, on a la chance d'accueillir la flamme olympique et la flamme paralympique. Donc il faut savoir que pour Paris 2024, ce relais de la flamme, c'est quelque chose de très symbolique. La flamme, elle est allumée donc à Olympe, en Grèce, avec un système ancestral, avec le soleil, les choses comme ça. Et elle est conservée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va pas allumer juste la flamme avec un briquet. Donc c'est quelque chose de très symbolique pour Paris 2024. Et pour la première fois donc sur le territoire français, on va avoir un relais donc sur l'ensemble du territoire qui va passer, qui va arriver à Marseille en mai, le 8 mai normalement, qui arrive à Marseille et qui va déambuler sur, faire un relais sur l'ensemble du territoire. Nous, dans l'heure, on va accueillir la flamme le 6 juillet. Donc elle passera le 6 juillet et elle va faire 7 villes. Donc elle va commencer à Ponto de Mer. Donc ça, c'est la première ville dans laquelle elle va passer. Ensuite, elle va aller à Gisors. Elle va aller à Val-de-Reuil, à Bernay. Ensuite, elle passe à Évreux, Verneuil et elle finit à Vernon. Donc ça, c'est les 7 villes dans laquelle elle va passer. Et ça demande donc à la fois une organisation complète donc avec les villes et aussi avec Paris 2024 qui organise donc ce relais de la flamme. Il y a beaucoup d'aspects aussi sécuritaires et des enjeux de ce côté-là qui sont assez importants. Et c'est un très gros projet que le département est très fier de porter. Et le 26 août, on va accueillir la flamme paralympique. Donc c'est plus tard, un mois et demi plus tard, après la flamme olympique. Et celle-là, on l'accueillera à Louviers. Et donc là, pareil, il n'y aura qu'une ville pour le coup. Et il faut savoir qu'il y a des relayeurs de la flamme, des porteurs de flamme qui ont été sélectionnés par Paris 2024, donc l'organisation des Jeux, par le département, mais aussi par toutes les entreprises qui sont collaborateurs de la flamme et les partenaires, c'est les partenaires officiels, on les appelle comme ça, de la flamme, qui vont sélectionner des relayeurs. Et sur l'ensemble du territoire, ça sera plus de 100 relayeurs qui vont se passer symboliquement la flamme de main en main sur toutes ces villes, sur ces 7 villes.
D'accord. Et est-ce que le fait de participer au JO, si je peux dire comme ça, est-ce que ça change la vie d'un sportif?
Alors, j'ai pas d'expérience. Moi, personnellement, j'ai jamais fait les Jeux, donc je pourrais pas répondre exactement. Il faudrait avoir un sportif à l'antenne pour te répondre précisément. Mais je pense qu'évidemment, ça change la vie d'un sportif. Enfin, il faut savoir que pour les disciplines, on va dire, entre guillemets, mineures, ou en tout cas moins télévisuelles et celles qu'on voit moins à la télé, et moins connues, les Jeux Olympiques, c'est l'apogée. C'est le moment d'une carrière, c'est la course d'une carrière. En athlétisme, ils s'entraînent tous les jours, tous les ans pour ce genre de compétition et pour cette compétition. Et parfois, sur du 100 mètres, par exemple, ça dure 10 secondes. Mais en fait, ils s'entraînent tous les jours pour ça, pour cette course-là. Et donc, les médaillés olympiques, une fois qu'ils sont médaillés olympiques, tu rentres vraiment dans l'histoire des Jeux, dans l'histoire de ton pays, dans l'histoire de ton sport. Enfin, c'est quelque chose de quand même très, très fort. Et pour beaucoup, oui, ça change la vie, ça change une carrière, ça change une notoriété aussi. Donc, c'est quelque chose de très fort, très important. et extrêmement reconnu aussi. Il y a une histoire, les Jeux Olympiques, c'est une histoire, c'est pas une compétition qui est née hier. Donc évidemment que ça change la vie des athlètes de manière générale. Il y a beaucoup de fierté autour de ça.
Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir de l'expérience. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions.
Il n'y a pas de souci.
Vous allez maintenant écouter la musique.
Un maximum de musique. Eh ben, excellent, on fait ça. Merci à vous en tout cas, et puis bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Bah, on a prévu d'interviewer deux journalistes. Un journaliste papier et un journaliste radio. Du coup, bah, vous allez entendre nos questions pour les deux journalistes.
Bonjour à tous déjà.
Bonjour
à tous. Bonjour.
Alors, je me présente un peu, peut-être plus simple pour vous. Donc, je m'appelle Philippe Guinchard, je bosse à Heure Info La Dépêche. Je suis responsable du service sport. Je suis journaliste de sport depuis mes débuts en 1996. Donc, je crois que vous n'étiez pas encore de ce monde, hein, vous êtes bien loin de là. Je couvre tous les sports et à la fois sur le papier, donc Heure Info La Dépêche. Je vous ai amené le journal du jour là, et puis aussi sur actu.fr, qui est aussi internet de... Voilà. Alors, je vous écoute, messieurs.
Bonjour, Damien.
Bonjour, Damien.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Salut, la Deuse.
Bonjour, Philippe.
Pourquoi vous êtes spécialisé dans le sport ?
Alors, pourquoi je suis spécialisé dans le sport ? Ça, c'est bien dit. Bah, déjà, alors, à la base, par passion, parce que j'ai toujours fait du sport. J'ai ma tata était une internationale de basket à Évreux, et donc elle m'a très vite donné l'envie de connaître le basket, qui est le sport le plus connu sur Évreux, et puis de la pratique aussi, parce que j'ai joué, et puis parce que j'ai toujours été intéressé par ça. Je trouve que ça donne l'occasion à la fois de faire des belles rencontres. Je trouve que les gens du sport, sauf quand ils sont un peu trop éduqués à la communication, ils ont beaucoup de choses à dire, ils peuvent raconter des belles histoires, leurs histoires personnelles, leurs parcours sont souvent très intéressants, et puis parce que c'est souvent aussi intéressant de vivre un match, une rencontre, un combat, une démonstration. Voilà.
Damien,
c'est la même question pour moi, non ?
Oui.
alors pourquoi je peux pas dire que je suis spécialisé dans le sport. Moi, je suis au contraire de Philippe, un journaliste de métier. C'est plus la passion et mon métier d'animateur ou en tout cas de personne travaillant dans le monde de la radio qui m'a amené à avoir la chance un jour de commenter une rencontre de basket. C'était complètement par hasard puisque c'était d'ailleurs le journal de Philippe Guinchard qui avait été contacté. Et en fait, le journaliste qui avait pris l'appel ne se sentait pas de le faire, et il savait que je faisais de la radio, il savait que j'étais passionné de basket, et il m'a proposé d'essayer, en tout cas de donner mon contact, et il s'avère que j'ai ainsi vécu ma première expérience de commentaire de match complètement par hasard. Ça s'est pas trop mal passé, j'y ai pris beaucoup goût, et aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire.
Quelle technique radio vous allez utiliser ?
Pour faire du commentaire. Eh bien, peut-être que l'expérience de tenir le micro, d'être un curieux, d'avoir toujours essayé d'avoir quelque chose à dire ou de poser une bonne question m'ont aidé un petit peu à déjà appréhender le commentaire de match. Après, c'est de la préparation, c'est du travail. Je le fais pas tout seul aussi, hein. Je suis avec un spécialiste, puisque avec moi j'ai quelqu'un qui est entraîneur de basket, qui connaît très bien les règles, qui connaît les systèmes tactiques, les mises en place, les choix. Et moi, en fait, je trouve que nous formons un bon duo, puisque je vais donner un peu le rythme, je vais essayer d'être très observateur sur ce qui se déroule, et voilà.
Grâce à votre métier, quel grand sportif avez-vous rencontré ?
Je vais t'en donner un bon petit paquet. J'ai rencontré Teddy Riner, par exemple, vous devez connaître dans le judo. J'ai rencontré Tony Parker. J'ai rencontré Michael Jordan, vous devez connaître. J'ai rencontré Michael Jordan. Alors, j'ai pas interviewé Michael Jordan, mais je l'ai rencontré, ça a été un grand moment. Qu'est-ce que j'ai rencontré encore? J'ai rencontré pas mal de gens. Je suis allé à la Coupe du Monde de rugby là, récemment, donc j'ai rencontré bah, les Sud-Africains, Galtier, enfin tous les joueurs, Dupont, voilà, des très bons joueurs. Je suis allé à la Coupe du Monde, à la Ryder Cup de golf en Italie. Je parle des souvenirs récents parce que ma mémoire me fait défaut, mais en fait, on a l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des grands joueurs. Par exemple, j'ai aussi un peu fait de foot et on a rencontré Dembélé, Ousmane Dembélé, quoi, à Paris. On a vu Brice Samba. Voilà, on a beaucoup de joueurs comme ça. Mais en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas avec eux qu'on a les meilleurs souvenirs. En fait, les meilleurs souvenirs, généralement, c'est avec des personnes qui sont pas forcément les plus connues, mais qui ont des choses à raconter qu'on n'a pas forcément entendu partout. Parce que le problème de ces gens-là, quand ils parlent, c'est qu'ils parlent à plein de journalistes en même temps. Et donc, tout le monde raconte un peu la même histoire. Et eux racontent souvent leur même histoire aussi. Et ils se dévoilent très peu parce qu'on leur a appris à pas dire trop de choses. Alors qu'en fait, les vraies belles rencontres qu'on fait dans ce métier, c'est des gens, qui sont plus ou moins anonymes, ou par exemple mon meilleur souvenir à ce jour, je crois, c'est d'avoir couvert les Jeux paralympiques en 2004, je crois, ou 2008 à Athènes, et j'étais avec un pongiste en e-sport qui s'appelle Bruno Benedetti, que je connaissais déjà très bien, et donc on a vraiment vécu de très belles choses là-bas, et j'ai rencontré des gens fabuleux là-bas. À tel point qu'il y avait plus souvent de l'émotion même, que voilà, c'est là que t'as envie d'écrire, parce que tu sais que ça va être quelque chose qui va marquer ces gens-là et qui va rester pour eux un moment important.
Damien, et du coup pour vous, c'est comment du coup?
Alors moi, c'est pas du tout le même curriculum vitae que Philippe Guinchard, parce que lui il berce uniquement dans le monde du sport. Moi, c'est une activité, j'ai envie de dire, un peu complémentaire et en dehors un peu de mon travail. Moi, ça reste principalement des entraîneurs de basket et quelques joueurs connus du basket français, des professionnels, puisque ce sont leurs métiers. Mais après, j'ai pas de grands noms en tête. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser beaucoup d'entraîneurs et de joueurs assez intéressant après des rencontres de basket, puisque à l'époque je filais en conférence de presse pour après avoir assisté à des matchs de l'ALM Évreux entre autres ou de Rouen aussi, et j'avais la possibilité de leur poser quelques questions. Donc j'ai pas de grands noms en tête, mais pas mal de joueurs et entraîneurs malgré tout intéressants et qui font aujourd'hui encore qui sont encore aujourd'hui sous les projecteurs du championnat de France de basketball, puisque comme Évreux évolue en Pro B en deuxième division, en fait, Évreux a affronté des joueurs et des entraîneurs qui jouent aujourd'hui en première division, qui s'appelle la Betclic Elite. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir de croiser ainsi, comme ça, quelques protagonistes du milieu du basket. Voilà.
Dans quel état d'esprit avez-vous interviewé?
En fait, on a peut-être déjà répondu un petit peu à cette question-là. Oui. En fait, c'est plutôt un peu la curiosité. En fait, on est Damien, je pense que le métier qu'on fait, c'est un métier qui nécessite d'être curieux, en fait, d'avoir envie d'avoir envie de voir une personne en face de nous se dévoiler, raconter quelques anecdotes, de partager son parcours. Et en fait, c'est le but pour nous après, c'est de le repartager, de le redistribuer à tout le monde en écrivant, si possible, une belle histoire.
Ah, bien vu, Philippe. Moi, j'ai la chance de l'avoir croisé pas mal de conférences de presse. Il a toujours été, et moi, c'est quelque chose qui m'importe aussi, très bienveillant, très respectueux de l'autre. Déjà, je crois que c'est la base. C'est de pas avoir la sensation d'être supérieur, mais non plus être inférieur au sportif qu'on va interviewer. Être humain contre être humain ou être humain face à un être humain, c'est effectivement de la curiosité, mais de la curiosité respectueuse. C'est aussi, et c'est, je crois, une qualité de Philippe, et moi je m'efforce de l'être aussi, une attention portée sur la rencontre que nous avons vue. Donc il y a des éléments de réflexion, ça peut amener des questionnements parce qu'un joueur n'était pas en forme ou au contraire a bien réussi un match, ou alors il y a eu des choix forts tactiques par exemple. Et donc c'est de l'observation qui peut alimenter derrière des questions pour effectivement que le joueur ou l'entraîneur, le sportif en tout cas, se livre.
Comment faites-vous pour interviewer quand vous ne connaissez pas la langue?
Moi, je demande à Philippe de traduire.
Bon, alors, j'ai la chance de parler un peu anglais, donc généralement, on passe par l'anglais. Par contre, effectivement, ça nous arrivait d'interviewer d'autres personnes qui parlaient, par exemple, des langues scandinaves ou asiatiques. Et là, on est obligé d'avoir recours à un interprète. Alors, généralement, ils sont accompagnés d'un interprète. On a aussi dans les cross-country, on a des athlètes qui viennent d'Afrique et qui donc peuvent avoir avec eux un manager qui traduit leur pensée. Voilà. Mais on est obligé de passer forcément par quelqu'un d'autre. On ne fait pas de dessin, on ne fait pas de signaux, mais voilà, on essaie de se comprendre.
Pas mieux.
Est-ce que vous avez des astuces à partager avec nos spectateurs?
Des astuces, c'est-à-dire des petits trucs pour faire parler les gens?
Voilà. Oui.
Bah, faire parler les gens, déjà, c'est les mettre en confiance. C'est-à-dire, comme ce que disait tout à l'heure Damien, c'est pas essayer d'être juge de quelque chose ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de... Généralement, on fait au début des questions un peu ouvertes, c'est-à-dire des questions... Enfin, on raconte un peu notre vision du match et on demande s'ils partagent la même chose. Voilà, on essaie de pas être trop sévère quand on voit quelqu'un qui arrive et qui a fait un match piteux ou qui a eu une défaite douloureuse à la fin. Et puis aussi, ce qui est important, c'est d'essayer d'établir une certaine complicité sans être dans la condescendance ou quoi que ce soit, mais essayer de faire en sorte que la personne ait envie de raconter vraiment ce qu'elle ressent et pas qu'elle se sente obligée de dire ce qu'on attend par exemple d'elle. Hein, voilà, si elle a envie de dire quelque chose qui est complètement contraire à notre vision, elle a le droit de le dire. Donc il faut essayer de faire en sorte de la laisser parler comme elle a envie de le faire.
Je rajouterais pour compléter que il y a aussi beaucoup d'écoute, c'est-à-dire que lorsque Philippe ou moi nous pourrions poser des questions à des entraîneurs ou des joueurs, les réponses qui vont nous être offertes vont très souvent amener un rebond, une autre question. Donc il est important de ne pas jeter sa question et puis ne pas véritablement faire attention à la réponse qui nous est offerte puisque ça peut derrière amener une question. Moi, je dirais que sur le commentaire de match qui est différent, déjà, il y a beaucoup de travail. J'arrive pas dans le gymnase où la rencontre va se dérouler avec une feuille vierge. J'ai préparé la rencontre, j'ai analysé les dynamiques des deux équipes, j'ai regardé les joueurs en forme, j'ai travaillé l'adversaire, c'est-à-dire que j'ai pris pas mal de statistiques ou d'informations où je recherche un petit peu des anecdotes pour alimenter mon commentaire, parce qu'un commentaire, c'est pas uniquement raconter une scène de jeu, c'est aussi lorsqu'il y a des temps morts ou des temps faibles dans la rencontre, eh bien pouvoir partager une anecdote ou une histoire concernant un joueur, son cursus ou les différents pays ou clubs dans lesquels il a évolué. Donc en vrai, c'est pas pour faire mon malin, et puis c'est vrai que c'est un peu bateau, mais c'est me concernant pas mal de travail en amont, donc avant la rencontre, et puis voilà, et puis voilà, ouais, j'en rajouterai pas.
Et du coup, Philippe, comment vous avez fait votre article d'aujourd'hui?
Alors, j'en ai pas fait qu'un seul, hein. C'est un très bon rebond. Hein. J'en ai fait quelques-uns, donc je vais vous amener le journal du jour, justement, pour vous montrer à peu près la diversité de ce qu'on est amené à traiter. On est un petit peu en avance sur ce qu'on appelle la journée de la femme ou la journée de la... Comment ça s'appelle la vraie journée la journée du droit international de la femme. Voilà, parce qu'on essaie de faire rentrer tout le monde. On essaie de faire rentrer tout le monde dans le journal. Et on trouve notamment que le sport féminin a beaucoup de choses à apporter au sport en général, parce que c'est souvent beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus facile. Les filles jouent moins tard, ont des modèles qui sont peut-être plus ancrés dans la vraie vie que dans un idéal de monde professionnel qui n'existe pas d'ailleurs. Et donc je vous ai amené quelques articles justement. Vous allez voir, il y a du volley, il y a du rugby féminin, il y a de l'athlétisme, un peu de foot, un peu de hand. Du futsal, vous voyez, on a une grosse diversité de trucs, de la gymnastique artistique. Vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et puis, ces articles-là sont faits soit directement, soit c'est un compte-rendu, c'est-à-dire on assiste à une rencontre sur place et puis on prend des notes, on partage. Ça, c'était le cas notamment du rugby qui avait lieu dimanche dernier, mais qu'on avait gardé pour faire une sorte de petit magazine avec un retour sur le match, mais aussi un petit bilan sur l'évolution de l'équipe qu'on traite assez régulièrement, mais pas chaque semaine. Donc c'est une équipe féminine de rugby qui joue en Fédéral 1, hein, qui a un bon niveau. C'est la troisième division nationale, avec un match qui était assez épique, parce que vous allez voir, les filles ont joué dans une gadoue incroyable. C'était le Pré-Margaux, c'est le vieux stade. Là, il y avait un arrêté sur le stade principal, et donc elles étaient dans la boue complète du début à la fin, et le match était très plaisant à regarder, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est un compte rendu, c'est-à-dire sur match, on assiste au match, on regarde, on échange après avec l'entraîneur, éventuellement avec une joueuse. Et puis, il y a d'autres papiers qu'on fait soit directement en téléphonant à la personne parce qu'on a des contacts. On passe par soit les réseaux sociaux, soit par leur numéro de téléphone directement. C'est de plus en plus rare, malheureusement, parce que maintenant, c'est beaucoup plus par les réseaux sociaux. Et il y a d'autres papiers qu'on fait en regardant, par exemple, des interviews à la télé. On essaie de récupérer quelques petites choses. Là, j'ai pas réussi à avoir, alors qu'habituellement, c'est un très bon client et il est très sympa avec ça, jusqu'à Oumaté. Je sais pas si vous connaissez. C'est le gars qui va être, c'est certainement le seul hébroïcien qui va participer aux Jeux Olympiques de 2024. Il fait du 110 mètres haies. Et là, en ce moment, il est dans la période indoor, c'est-à-dire en salle. Et donc là, il était au championnat de France de 60 mètres haies. Il a fait deuxième derrière un autre très bon. Il y a une très belle école d'athlétisme au niveau des haies. Et juste, c'est quelqu'un, si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer, c'est un gars fabuleux, il est d'une gentillesse incroyable, c'est pas une star, c'est un gars simple, un gars qui adore ce qu'il fait, qui rend beaucoup à son club, et là il s'entraîne à Poitiers, mais il continue de rester en contact avec Évreux, il participe même à des interclubs pour le club d'Évreux, j'ai pas réussi à l'avoir cette fois-ci, mais habituellement il décroche son téléphone et on échange sur ce qu'il fait. Voilà, donc il y a plusieurs façons donc de faire des reportages. La meilleure étant d'être sur le terrain et puis d'assister au match et d'échanger avec les personnes en direct à la fin du match ou de la rencontre ou du combat ou.
Eh ben merci pour tous vos détails et vous nous avez trouvé comment pour comme journaliste.
Vous êtes très beau déjà, hein. c'est très très bien avec vos casques, vous êtes très très beau. Vous avez posé des questions, c'est bien, vous vous intéressez. Vous n'êtes pas trop intimidé par le micro, pour la plupart. Et c'était chouette, c'était une belle expérience. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, si un jour vous voulez venir visiter une rédaction, je vous invite à venir faire un petit tour à Info La Dépêche. On est rue Jean Jaurès. Il y a peu de gens qui nous connaissent parce qu'on est un peu perché dans un endroit un peu anonyme. C'est en face de l'école de musique. Mais si
à
un jour
côté de la mission locale.
Exactement, à côté de la mission locale. Voilà, ça, on sent l'associatif qui parle. Et donc, si vous voulez venir faire un petit tour, on vous fera visiter les locaux et on fera partager un peu le quotidien d'une rédaction qui est très sympa. On s'entend tous très bien. On est 6 ou 7 à l'heure actuelle avec un rédacteur en chef, un rédacteur en chef adjoint et tout ça. Et voilà. Donc, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera.
On prend cette invitation on verra avec nos professeurs si on pourrait y aller.
Il n'y a aucun problème.
Du coup, merci de nous avoir écoutés avec Philippe et Damien.
Deux pour les intimes.
Ouais, non, mais merci jeunes gens. Vous avez raison de vous poser des questions et vous avez raison d'être attentifs aux réponses qui vous sont offertes. Et puis, vous l'avez entendu, hein, c'est l'être humain au cœur des discussions, puisqu'il faut être respectueux de l'autre, mais en même temps préparer nos échanges. C'est comme ça ne s'improvise pas, un bon échange ou une bonne interview. Merci à vous pour vos questions.
Merci, et on retrouve Thaïs, Noah et Brian.
Merci, bonne émission.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci aussi à Principe Actif de nous avoir ouvert leurs portes.
Merci aux professeurs de nous avoir accompagnés.
C'était la classe des 4e G et non pas comme G comme journaliste. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.